Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle bien sûr du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Très content de vous retrouver pour cette 29e journée. Oui, ça avance toujours aussi vite, je sais, je me répète, mais voilà, ces journées, elles filent entre les doigts, là, comme des grains de sable, là, on va pas non plus cracher sur notre plaisir. On a des belles journées en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il reste 6 journées, 18 points à prendre pour chacune des équipes. On a vu qu'il y a des gros écarts qui ont commencé à se former, notamment les 4 équipes en tête avec le PSG qui est un peu plus haut, Brest, Lille et Monaco. Et derrière, des équipes qui vont suivre, qui sont un peu plus larguées comme Nice, Lens, Reims, et Marseille, et on voit même, voilà, Rennes et Lyon qui sont aussi là, qui sont très bien revenus, et voilà, des petites équipes qui peuvent, allez, on sait jamais, peut-être pointer le bout de leur nez, mais bon, on en reparlera pendant l'émission, et surtout, voilà, cette zone de relégation qui est toujours aussi chaude et bouillante, hein, qui se joue aujourd'hui entre 4 équipes, qui va descendre, qui va être barragiste, on ne le sait pas. Aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est la Bretagne qui m'accompagne aujourd'hui. C'est la Bretagne qui m'accompagne avec l'homme qui est toujours, qui est en tout cas souvent présent et qui en profite parce que qui sait, peut-être que son club sera en Ligue 2 l'année prochaine et qu'il ne participera plus au podcast, pardon. Alexis, comment tu vas ?
Ah là là, c'est gentil hein, de commencer comme ça, vraiment.
belle introduction, non?
Voilà, très très belle introduction. Je vais suivre quelques-uns des Nantais ou compères bretons en disant que Nantes n'est pas dans la Bretagne, bien sûr. Mais ça reste un grand club de Ligue 1. En tout cas, je suis très content de pouvoir être là encore pour débattre avec vous sur tous ces sujets, de cette belle Ligue, de ce beau championnat et des matchs qui sont à venir cette semaine.
Très content de t'avoir avec nous. Et puis, alors du coup, un vrai breton, hein, parce que toi, tu chipotes. Notre ami rouge et noir, Maxime, comment tu vas, Maxime? Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous.
Salut Desti, salut Alexis. Je suis content que Alexis dise bien qu'il n'est pas breton, parce que Nantes ne fait pas partie de la Bretagne. je suis un vrai breton et fier de l'être. Bonjour à tous et ça fait plaisir d'être là.
Nickel. Vu que voilà, on a une journée un peu spéciale, on a 3 matchs en moins cette semaine, puisque la Ligue a décidé de décaler les matchs des 3 équipes qui jouaient en Europe. Joli geste. Alors, en tout cas, moi, je le pense. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Vous pensez que c'était quelque chose à faire, pas nécessaire? Il me semble pas que ça a été fait avant. Votre avis un peu sur la question. On va commencer par toi, Maxime.
Je trouve que c'est pas trop mal, parce que c'est vrai que mine de rien, la France, on espère avoir des bons résultats en Europe, on espère gagner des points au niveau de l'UEFA, donc c'est important, je trouve, de mettre les clubs français dans les meilleures conditions possibles en Europe, donc pourquoi pas, et puis au moins ça permet aux autres de jouer à ce moment-là, donc je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, ça permet d'avoir des matchs de Ligue 1 un peu en plus toute la semaine, donc c'est plutôt pas mal.
Nickel. Et toi, Alexis, qu'est-ce que t'en penses de ce petit ajustement?
Oui, je suis plus ou moins d'accord. C'est dans l'intérêt de la Ligue de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les clubs à aller le plus loin possible en Europe, parce qu'on sait que c'est assez compliqué et rare en France, malheureusement, malgré les très bonnes équipes qu'on a chaque année en Europe. Il n'y a jamais de chance. Et donc là, peut-être c'est ce petit coup de chance qui peut aider ces clubs-là. Après, j'ai juste une petite réticence, on va dire, sur les clubs que ces équipes affronteraient ce week-end, car là, il n'y a que Lorient dans ce cas de figure. Mais Lorient, ça leur fait du coup une semaine entière sans jouer, alors qu'ils ont un objectif en fin de saison. Peut-être qu'ils veulent garder le rythme, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Après, le reste des matchs, ça a été bien, bien organisé. Je ne sais pas si c'est la chance ou pas, mais Lille-Monaco, Marseille-Nice, ça reste des matchs européens. Donc il n'y a pas trop de répercussions là-dessus.
Ok, nickel. Et dernière petite question d'actualité, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, Prime Video a mis en place la sonorisation des arbitres. Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le foot. L'une des innovations qu'il faut mettre dans le foot. Au-delà de juger l'arbitre sur leurs compétences, hein, parce que c'est vrai que du fond de son canapé, c'est facile d'avoir une meilleure vue sur certaines actions avec les ralentis, mais c'est aussi de comprendre leur démarche, pourquoi à certains moments il y a faute, pas faute, et puis quel est le rapport qu'ils ont avec les joueurs. Pareil, Maxime, toi, t'en penses quoi de cette nouvelle innovation qui devrait faire justement prendre un peu plus de place au sein des matchs de foot et dans les diffusions?
Je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir de la transparence et que on sait qu'il y a énormément, comme tu le dis, de personnes qui sont en train de juger des décisions arbitrales au niveau de leur canapé. Mais c'est plus compliqué qu'on ne le pense d'être arbitre. Donc après, au moins, on aura des réponses. Et ça permet quand même, voilà, pour l'arbitre aussi, de se dire « oui, je sais ce que j'ai dit et je maintiens ma décision, même si je suis écouté ». Donc ça permet d'une pour les téléspectateurs de comprendre, même si y en a certains qui ne comprendront pas. Mais ça permettra aussi à l'arbitre de maintenir sa décision et de pouvoir montrer tout son professionnalisme.
Du coup, j'imagine que toi, Alexis, t'aurais bien voulu savoir pourquoi la casette n'a pas eu de carton rouge sur son coup de coude.
Voilà, exactement. Pourquoi ils n'ont pas fait cette sonorisation pour Nantes-OM? Ça aurait été bien plus intéressant que pour Lille-Marseille, qui était un match un peu plus one direction, on va dire. Ouais. Après, en soi, je suis plus ou moins d'accord aussi avec Maxime, c'est super bien et il faut. Oui, en fait, au rugby, ça marche très bien, c'est génial, ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans le match parce qu'il y a certains côtés du règlement que chaque supporter ne connaît pas. Mais après, j'ai envie de dire que les supporters de foot sont un peu différents des supporters de rugby, donc il y aura toujours, je pense, des réactions un peu. Critique ou un peu trop critique, un peu trop violente peut-être par rapport à ce que l'arbitre pourra ou pourra ne pas avoir dit lors de ces matchs-là. Donc j'ai juste un petit peu peur là-dessus sur les gros matchs à pression où on sait que voilà, avec le chant des supporters, avec l'enjeu du match, les joueurs qui ont parfois une grosse tête, enfin la grosse tête pardon, expression. L'arbitre peut parfois perdre ses moyens, peut-être lâcher un mot qu'il faut pas, et j'ai peur qu'il prenne la foudre derrière, en fait, si c'est entendu par des millions de téléspectateurs.
Ok, ouais, bah je pense que de toute façon, voilà, on est à peu près tous du même avis. C'est quand même une bonne chose pour le foot. Après, à voir comment ils vont mettre ça en place. Est-ce qu'il y aura aussi un peu ce côté direct? C'est-à-dire d'entendre directement l'arbitre pendant le match discuter. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai des images que j'ai vues.
Ouais. Je sais pas s'ils vont le mettre en place. Est-ce qu'on va entendre en même temps? Parce que bon, il y a les commentateurs, les choses comme ça. Ouais. Donc peut-être que ça va être surtout sur certaines décisions litigieuses, sur des hors-jeux qu'on voit qu'on ne voit pas, des fautes dans la surface qu'il y a ou qu'il n'y a pas, des cartons rouges qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Je pense que voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont être assez intelligents pour le mettre en place de manière modérée et justement dans les décisions importantes.
Vous imaginez que
après,
ça fait...
Justement, vous avez la même chose pour la VAR. Quand c'est arrivé.
Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On pourrait faire toute une émission sur la VAR.
Oui, mais après, la VAR en soi, normalement, il y a uniquement certaines règles pour lesquelles elle rentre en application ou pas. Donc après, il y a ces points-là.
Et ouais, donc du coup, je voulais vous dire, vous imaginez si ça fait comme pour les matchs de football américain où d'un coup l'arbitre s'arrête en plein milieu et puis tout le stade l'écoute en train de dire « Alors voilà, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça ?» Ça serait bizarre quand même d'aller jusqu'à là, mais bon. On ne sait jamais avec la FIFA et la Ligue et ce qu'ils peuvent mettre en place. Eh bien, messieurs, on va plonger dans cette 29e journée de notre beau championnat. Alors là, on s'est concentré sur deux beaux matchs intéressants avec des situations, avec des équipes qui sont dans des belles situations et d'autres non. Le premier match, ça va être Rennes, donc le Stade Rennais face au Toulouse Football Club, match qui a lieu du coup samedi soir à 21h. Et en deuxième partie, Lyon contre Brest, match prime time du dimanche soir. Alors, Rennes contre Toulouse, juste pour vous remettre dans le contexte, Rennes contre Toulouse, c'est 0-0 match aller. C'est quand même assez partagé de manière... En vérité, c'est surtout une domination rennaise ces dernières années sur Toulouse, sauf l'année dernière où Rennes avait perdu 3-1. Mais généralement, Rennes se débrouille plutôt bien face à Toulouse. Et puis, comme je vous le disais, c'est aussi deux équipes aujourd'hui qui ont deux dynamiques différentes, dans le sens où Rennes a pas enchaîné forcément les bons résultats récemment. Elle sort quand même de deux défaites de suite. Donc une face à Strasbourg et une autre face à Monaco, sans compter celle en Coupe de France face au PSG, tandis que Toulouse, elle, est sur les deux derniers matchs, une victoire 3-0 face à Clermont et un nul face à Strasbourg 0-0. Donc Toulouse est actuellement 11e du championnat avec 33 points, tandis que Rennes est 9e du championnat avec 39 points. Donc on va commencer par forcément l'équipe qui reçoit, et je vais commencer avec toi, Maxime, puisqu'on avait déjà parlé de Rennes la semaine dernière, t'étais pas avec nous. Moi, j'aimerais comprendre un peu Rennes, enfin en tout cas, dis-moi si je me trompe ou pas, est-ce qu'on peut dire que là, ce match-là, c'est un peu la dernière chance pour Rennes de viser l'Europe? Est-ce que si ça se passe mal, que ce soit défaite ou match nul, Rennes peut dire au revoir à la Coupe d'Europe. Enfin, n'importe quelle Coupe d'Europe. Coupe européenne.
Disons, ça va être assez compliqué pour Rennes, parce que c'est vrai que on s'attendait à l'Europe. Finalement, défaite contre Strasbourg, défaite contre Monaco. Il y a eu des défaites au milieu de l'année contre Lorient. Il y a eu quand même des défaites qui ont fait mal à Rennes. Et c'est vrai que quand on regarde le classement actuellement, on voit que oui, c'est très serré en haut, c'est serré de la cinquième place jusqu'au dixième. Il y a quand même très peu de points d'écart. Donc en soi, il y a très peu de marge d'erreur. C'est pas terminé pour l'Europe parce que mathématiquement, on va dire, ce n'est pas fait. Tout va dépendre des résultats qui sont au-dessus. Mais c'est vrai que le destin n'est pas contre leurs mains. Il est aussi entre les mains d'équipes qui sont au-dessus. Donc ça va être compliqué. Entre guillemets, il y a 6 matchs. Il faut prendre le maximum de points, mais c'est vrai qu'ils se sont quand même tirés une belle balle dans le pied à perdre différents matchs courant de la saison. Donc il est fort possible qu'on ne voit pas Rennes l'année prochaine en Coupe d'Europe. Et dans ce cas-là, il y aura un mercato estival qui sera assez chargé du côté rennais cet été.
Et du coup, pour rebondir à ce que tu dis et te lancer aussi à Alexis, c'est voilà, dans cette mauvaise période rennaise, hein, Maxime parlait du match, enfin de la défaite face à Lorient. C'est ce qui est dommage, et on en parle aussi la semaine dernière, c'est que j'ai l'impression que Rennes est en train de gâcher les efforts qu'ils ont fournis. Rennes, janvier-février, c'est 5 victoires, un match nul. La mars-avril, début avril, c'est une victoire, un nul et 3 défaites. Ça va être le troisième, ils ont fait 3 matchs sans marquer, toutes compétitions confondues. Terrier sera absent face au TFC parce qu'il a pris un carton rouge. Quid de cette attaque rennaise? Quel est le problème aujourd'hui de cette attaque rennaise? Pourtant, voilà, on disait qu'il y a des beaux joueurs comme Gouiri, comme Blas, comme Kalimuendo. T'as un Bourigeaud pendant un moment qui était en pleine bourre, surtout quand il y a eu le changement d'entraîneur. Hein, on a vu qu'il a vraiment pris de la stature dans cette équipe, surtout offensivement. Donc, quel est le problème de cette offensive rennaise? Pourquoi ça n'arrive plus à se mettre en place?
Alors ça, c'est la bonne question. c'est vrai que Terrier sera pas là ce week-end contre Toulouse. C'est bien dommage, surtout pour le type de carton rouge qu'il a reçu, où c'est vraiment une semelle moche qui qui n'était pas forcément très nécessaire. Et bien sûr, on n'aime pas vraiment voir ça dans le foot aujourd'hui. Mais c'est vrai que Terrier, du coup, après le match qu'il a fait, surtout, où il fait une barre transversale, il a quelques appels magnifiques, des touchés de balle. Enfin, Terrier, il a le talent, il a ce qu'il faut pour pouvoir porter l'équipe, je pense. Mais oui, malheureusement, il y a peut-être un petit problème dans le système offensif de Rennes où, en fait, aucun des joueurs de l'équipe n'a marqué plus de 6 buts. Quand on voit justement le type d'attaquant qu'on a avec voilà, Terrier, Guiri, Kalimundo, c'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui ont chacun eu déjà une saison à au moins 10 buts, si je ne me trompe pas, même peut-être 15, je ne sais pas. Je suis pas allé vérifier ni compter.
Kalimundo, je pense pas. À vérifier, mais je suis pas sûr qu'il ait
À
déjà fait une
Lens,
saison à
il a
plus de
dû
10 buts.
marquer plein de buts quand même. Je vais
Oui,
voir.
à Lens, il a fait une saison où il a mis plus de 6 buts. Hein.
Ouais, 12 buts. 12 buts à Lens la saison
Ok.
dernière. Et 7 il y a 2 ans. Ou il y a 3 ans, pardon. Mais oui, c'est vrai que du coup, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à être réaliste aussi. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où il domine. Mais au final, voilà, ils n'arrivent pas à marquer, comme tu le disais, depuis quelques matchs. Après, au vu de toute la saison en entière, si on regarde vraiment, ils ont techniquement que 3 défaites. Donc 2 contre Lorient, 1 contre Strasbourg. Et après, toutes les autres défaites, c'est contre des clubs un peu plus gros, avec une plus grosse pression, avec le top du tableau, en fait, avec donc Paris, Marseille, Lyon, ils ont perdu une fois. Et Nice, donc des clubs qui
Et
sont à niveau
Monaco aussi,
égal,
je crois.
et Monaco, voilà, exactement, bien sûr.
L'aller-retour, ouais.
Ouais. Donc, en soi, ils ont perdu beaucoup contre des grosses équipes, ce qui n'est pas faramineux ou horrible ou impensable, ça peut arriver. Bon, qu'ils les aient perdus tous, c'est là où ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais oui, du coup, moi, je dirais seulement ces 3 matchs contre Lorient et Strasbourg qui sont un peu des déroutes où normalement l'attaque rennaise doit faire beaucoup plus mal aux défenses adversaires.
Ah, surtout qu'en plus Lorient, c'est défaite aller-retour 2-1, quoi. Mais du
Le match
coup,
contre Lille aussi, c'est vrai que le match contre Lille, ils gagnent 2-0 et ils sont revenus de 2. Donc oui, quand on voit le résultat final de 2 contre Lille, on se dit bon bah on connaît pas l'issue du match. Mais quand on regarde le match, il y a 2-0 pour Rennes. Donc au moment où il y a 2-0, c'est pas possible de se faire revenir à 2-2.
Ah, mais je me souviens en plus de ce match-là où t'as Rennes qui, plus le match avance, plus Rennes est en train de reculer. Tu voyais Lille qui poussait, qui poussait, qui poussait. Et bien sûr, rien n'est écrit dans le foot, mais t'avais ce sentiment que bah Rennes, voilà, ils avaient mis 2-0, ils voulaient plus jouer au foot et ils se voyaient déjà gagner, puisque le but, il est en toute fin de match, il me semble,
Oui,
entre
mais
guillemets.
les 2 buts sont en fin de match. J'ai pas les
Ah,
minutes
je me
en tête,
souviens plus exactement, ouais, mais il me semblait, ouais, que c'était en toute fin de match. Bah, du coup, ouais,
c'est
je te pose la...
84e et 91e.
Ouais, voilà. Je te pose la même question, Maxime. Voilà, vu que c'est un peu ton équipe, tu la connais un peu mieux. C'est quoi le problème de cette animation offensive, en fait? Il y a quand même 3 matchs de suite sans aucun but. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la problématique aujourd'hui?
Pour moi, il n'y a pas d'automatisme. Pour moi, les joueurs jouent de manière individuelle. Ils sont tous là pour leurs stats qu'ils n'ont pas, du coup. Mais c'est vrai qu'ils pensent plutôt année prochaine avec où je vais aller, dans quel club je vais aller, parce que bah ils vont chercher un autre club parce qu'ils voient qu'il y a cette forte possibilité de ne plus aller en Europe. Donc moi, je vois des joueurs qui sont pas forcément ensemble en dehors du vestiaire et qui sont pas forcément qui se créent pas forcément d'automatisme et qui ne jouent pas forcément les uns pour les autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des joueurs qui sont pas forcément à leur poste aussi, il y a peut-être le système de jeu qui n'est pas adapté à tout. Mais c'est vrai que il y a des joueurs de qualité hein, franchement des joueurs comme Guiri, comme Désiré Doué, comme Martin Terrier, comme Blas Le Fait ou Kalimundo seront titulaires dans la majorité des clubs, mais là pour moi c'est aussi un peu une guerre d'ego offensive.
Ok. Et du coup, on a vu aussi un joueur qui rentre de plus en plus dans le schéma tactique Rennais, c'est Mathieu Ziwa, voilà, qui enchaîne, on va dire, un peu plus de titularisation au sein de l'équipe, notamment pour pallier à l'absence bah, de Matic, hein, qui est parti au mercato d'hiver à Lyon. Mathieu Ziwa, bonne ou mauvaise pioche? Je vous demande votre avis à tous les deux. On va commencer par toi, Alexis. Bonne ou mauvaise pioche?
Moi, je pense justement pour remplacer Matic, c'est une plutôt bonne pioche. Il fait pas des matchs dégueulasses. Il est bon. Il est stable en fait. Il est très solide en fait. Après, je vais pas dire qu'il a encore eu son moment étincelant où il peut se montrer, où il peut montrer sa classe ou toutes ses qualités. Pour l'instant, il s'est juste, je pense, focalisé sur le fait d'être stable, d'arriver dans une nouvelle équipe, de s'adapter au système. Et je pense qu'il le fait plutôt bien pour l'instant. Parce que, voilà, on l'a connu à Reims, il était très. Ben, c'est lui qui portait l'équipe au milieu, on va dire. Et on attend juste qu'il fasse la même chose, qu'il puisse prendre ses libertés, voilà, justement dans le milieu d'arène et libérer ses attaquants ou ses milieux offensifs.
Toi, Maxime, t'en penses quoi? Mathieu Ziwa, bonne ou mauvaise pioche pour Rennes?
Je trouve que c'est une bonne pioche en soi. Quand on voit le recrutement qu'avait fait le Stade Rennais, ils ont vraiment misé sur du gain cette saison entre eux. Blas, Lefay, Seydou et Mathieu Ziwa. Je trouve que Mathieu Ziwa, c'est une bonne pioche parce que c'est un joueur qui fait de bons matchs et qui s'incorpore bien dans le collectif et qui apporte un plus justement à cette équipe.
Ok. Ouais, je me posais la question un peu parce que voilà, c'est vrai qu'en ce moment il est de plus en plus titulaire hein, dans l'effectif rennais. Il me semble qu'il a enchaîné deux titularisation si je me trompe pas. Malheureusement ça a coïncidé avec les deux défaites rennaises.
Qu'il est synonyme de défaite, c'est ça?
Non, mais c'est comme ça, tu vois, c'est pure coïncidence.
On espère que ça va changer ce week-end alors.
Ouais, peut-être, mais voilà, je voulais me poser la question, et puis en plus, je vois que Enzo Lefay, voilà, il revient de blessure, voilà, peut-être une nouvelle animation aussi au milieu de terrain, on a un Désiré Doué aussi, qui fait des belles prestations au milieu de terrain, à quel type d'animation, justement, au milieu, on peut s'attendre pour ce match-ci, Maxime?
Moi, je vois pas le fait titulaire parce que c'est vrai qu'il revient d'une blessure. Au niveau de l'animation, je verrais un peu la même chose que contre Monaco. Je vais reprendre la composition. On était sur un 4-4-2 avec Mathieu Ziwa et pourquoi pas à la limite au milieu de terrain avec Mathieu Ziwa, pourquoi pas Santa Maria, et devant Kalimuendo Guiri, et sur les côtés Désiré Doué Bourigeaud. Moi je la verrais un peu comme ça cette
Et donc dernier aspect qu'on va aborder côté Rennais qui va nous permettre après de transvaser à Toulouse, la défense rennaise. Est-ce que on doit aussi s'inquiéter de cette défense rennaise? Cette défense rennaise, c'est 14 clean sheets à domicile, c'est pas beaucoup sur une dizaine de matchs, 21 au total. C'est l'équipe qui réussit le moins de tacles en Ligue 1 pour récupérer le ballon. Tête au mari, au final, est-ce que c'était pas trop tendre, trop jeune pour une saison aussi longue? On va commencer par toi, Alexis.
Bah, en fait, oui, la plupart de ces joueurs, ils ont tous eu, enfin, je parle surtout de Tête et de Truffert, la saison dernière, ou il y a 2 ans, où ils ont explosé, où ils ont fait une très très bonne saison, ils ont commencé à jouer en sélection, en Belgique ou en France, je crois pas que Truffert ait joué, mais il était appelé au moins. Et c'est vrai que cette saison, j'ai l'impression que la pression a un peu baissé En plus, oui, avec l'arrivée cet hiver de Seydou, qui, comme Matuziwa arrive dans une nouvelle équipe, essaye de se retrouver. Voilà, c'est vrai que c'est très jeune, mais c'était le projet sportif aussi, c'est de chercher des bons jeunes joueurs qui puissent porter l'équipe, qui puissent s'inscrire dans la durée. Donc voilà, c'est un pari à prendre. Pour l'instant, c'est compliqué, comme je l'ai dit, c'est risqué. Et je pense qu'on peut juste attendre qu'ils fassent mieux l'année prochaine, qu'ils utilisent cette saison pour engranger de l'expérience, pour apprendre de ces matchs contre Lille, par exemple, il y a quelques semaines où ils se font remonter à la fin. Voilà, ce genre de match, ou même l'Europe aussi, parce que ces joueurs, ils ne connaissaient pas forcément l'Europe. Ils ont pu jouer contre Milan, au San Siro et tout. Ce sont des choses, voilà, qui sont importantes dans la progression d'un joueur. Perdre aussi, ça fait partie des expériences à avoir, donc voilà.
Ouais, parce que au final, Maxime, on a un Tête 23 ans, Bélocian 19 ans, Seydou 23 ans, Omari 23 ans, Wu 22 ans, Truffert 22 ans, Doué 21 ans. Alors, il y a un Mandanda 39 ans qui a beaucoup d'expérience et pour l'avoir critiqué, mais je trouve qu'il fait quand même des très belles prestations, mine de rien, sur ses derniers matchs, surtout face à Monaco, hein, je trouve qu'il a fait des beaux arrêts. Voilà, au final, cette défense peut-être trop tendre, pas prête pour une saison si longue, aussi chargée.
Bah, après, c'est vrai que ça fait quand même depuis un an et demi qu'on parle de cette défense du Stade Rennais. Justement, ils recherchaient un défenseur central. Ils l'ont trouvé, ils l'ont pas trouvé. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ils ont eu beaucoup de mal. L'année dernière, il y avait eu le prêt d'un joueur qui venait du Milan AC. Ça ne l'a pas forcément fait, Joey Rodon. Donc, c'est vrai que Rennes mise beaucoup sur la jeunesse. On le voit à chaque fois qu'ils recrutent, ils recrutent jeunes. Ils ont recruté Ryder, ils ont recruté quand même Lefebvre et Blas qui ont des potentiels. Ils ont toujours recruté jeunes. Yildirim, c'est assez jeune. Ils avaient recruté Salah. Ils aiment recruter jeunes. Mais c'est vrai qu'à un moment, faut recruter l'expérience. C'est pour ça qu'ils avaient pris au milieu de terrain Matic. Ils ont pris Mandanda justement pour avoir cette expérience. Ils ont besoin d'un défenseur central avec de l'expérience. Donc moi, je ne serais pas étonné, je trouve même essentiel que cet été, il y ait un des trois centraux qui partent, soit Théâtre, soit Omari, soit Wu, et l'arrivée d'un central réel. Parce que c'est vrai que l'arrivée de Seydou, c'est intéressant pour jouer à droite, c'est intéressant pour jouer dans l'axe, bah en fait, c'est pas forcément le bon joueur pour les deux, surtout dans ce dispositif-là. Il est très bon quand il joue en central droit dans une défense à 3. Mais c'est vrai que Rennes joue dans une défense à 2. Donc là, c'est compliqué de le mettre central droit et c'est compliqué de le mettre latéral droit parce que c'est pas son poste. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur de casting sur ce profil. C'est un bon joueur, mais pas forcément fait pour jouer dans ce dispositif-là avec le Stade Rennais.
Genre un petit Abdelhamid, par exemple, qui est en fin de contrat et qui ne va pas prolonger avec Reims.
Ouais, après, c'est vrai que c'est. Rennes aime les joueurs d'expérience, oui, mais dans ce cas-là, quand ils prennent de l'expérience, ils prennent souvent des joueurs quand même qui viennent de grands clubs. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du PSG, hein, mais le Marseille est un grand club comparé au Stade Rennais, on va dire au niveau de la culture du club. Et donc, le fait de recruter Mandanda, c'est quand même pas mal. Et le fait d'aller chercher Matic à l'AS Rome. Ce sont deux joueurs d'expérience qui ont évolué dans des grands clubs. Je vois mal le Stade Rennais aller chercher un joueur d'expérience dans un plus petit club que le Stade Rennais. Donc pourquoi pas aller chercher un joueur dans un championnat intéressant, dans un club intéressant, mais justement avec moins de temps de jeu parce que il a l'expérience et peut-être qu'il est un peu plus âgé.
Bah justement, ça va nous permettre de transitionner sur cette équipe toulousaine qui est, elle, de son côté, en pleine bourre, hein, qui fait des bons résultats en ce moment, qui aujourd'hui on parle d'un quasi maintien, qui a réussi à créer quand même on va dire un petit écart avec notamment le premier barragiste, premier relégable Lorient qui a 26 points, Toulouse est actuellement à 33 points, ils ont fait un match nul la semaine dernière face à Strasbourg, ils ont gagné 3-0 face à Clermont, mais il y a une particularité moi qui me fait quand même assez rire à Toulouse, c'est que j'ai l'impression que cette équipe elle est forte avec les fortes équipes et faible avec les faibles. Alors, je vais m'expliquer pourquoi et je vais vous dire pour ça, parce que quand on regarde les résultats du FC Toulouse face à certaines équipes, notamment un peu plus haut, voilà, Toulouse, ils ont quand même battu Reims et fait match nul, ils ont battu Nice une fois, ils ont battu Lille, ils ont fait match nul, ils ont battu Monaco une fois, ils ont perdu de l'autre côté, ils ont fait un match nul contre le PSG, contre Brest, voilà, c'est quand même des équipes du haut du tableau, mais a contrario, Strasbourg, nul, ils perdent, Montpellier, ils perdent, Le Havre, ils perdent aller-retour, Nantes, ils perdent un match, ils en gagnent un autre. Alexis, je vais te lancer sur le sujet. Est-ce que tu penses que cette équipe toulousaine, bah, justement, avec juste la dynamique qu'ils ont en ce moment, puisqu'ils sont aussi sur une belle dynamique en 2024, pardon, c'est quand même 6 victoires, un nul et 4 défaites, ce qui est quand même assez pas mal. Est-ce que tu penses que voilà, elle peut aujourd'hui poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est un peu dans le doute, sachant que juste pour te donner cette information, Siro sera absent pour un cumul de cartons jaunes.
Oui, je pense que Toulouse peut le faire, parce que comme à l'image de toute cette saison, comme tu le disais, ils n'ont pas arrêté de poser des problèmes contre des équipes plus grosses, contre des équipes qui prennent le ballon et qui jouent. Elles ont eu même ce parcours en Europe qui était extraordinaire, et très, oui, très intéressant sur les résultats qu'ils ont pu faire, sur les victoires qu'ils ont pu avoir et les matchs nuls inespérés, on va dire. Contre Liverpool, ce genre de club, quoi, de petits clubs. Mais en effet, oui, contre les plus petits, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc là, c'est là qu'on va voir si Rennes se considère comme un des grands clubs français.
Le test.
Voilà, c'est ça. Il faut passer par le test Toulouse. À Nantes, on l'a perdu. Ça veut dire que... non, mais... Toulouse, c'est voilà. En fait, ça dépendra de leur état d'esprit le jour du match, parce qu'ils peuvent faire des matchs incroyables et d'autres complètement passer à côté. Je ne sais pas si c'est un problème d'ego, je ne sais pas si c'est un problème de moins de visibilité, voilà, contre des clubs, contre Le Havre. Si tu joues Le Havre à 15h, t'as peut-être moins de visibilité pour les joueurs que Lille ou que Rennes ou que le PSG, et du coup t'as moins d'efforts pour te montrer, parce que tu te dis que ça sert à rien pour ton futur club de l'année prochaine. Donc à voir, moi je pense que ça va être un match très intéressant. Je pense que Rennes va mener le match, va prendre le ballon et essayer d'imposer leur jeu, et Toulouse en contre, qui justement va essayer de faire ce qu'ils savent bien faire contre ces gros clubs et percer la défense voilà pour contrer comme ils peuvent.
Parce que on parle quand même d'un joueur là, Dalinga, moi que j'adore hein, personnellement, qui a eu un début de saison très difficile, mais Dalinga au mois de mars sur du coup 4 matchs de Ligue 1, c'est 3 buts, une passe décisive. Toi, Max, tu penses que Rennes a les capacités aujourd'hui de pouvoir freiner cette attaque toulousaine et, alors, peut-être pas un clean sheet, mais au moins prendre le moins de buts possible pour derrière l'emporter?
Freiner cette attaque toulousaine, on parle pas du Real Madrid ou de Manchester City en Ligue des Champions, tout est relatif. Oui, Rennes a les capacités de le faire. Après, est-ce qu'ils vont s'en donner les moyens? Parce que Toulouse, comme vous l'avez dit tous les deux, ces derniers matchs, c'est intéressant. Ça gagne contre des gros clubs. Ça propose du jeu. Il y a quelques mois, je pense qu'on ne les aurait pas vus là. Donc, en tout cas, moi le premier. Donc, je trouve que oui, il y a énormément de jeunesse aussi côté côté toulousain, mais il y a des joueurs qui sont performants. Je pense que le fait que Siro soit pas là va vraiment faire du mal à Toulouse, parce que c'est vraiment le maître à jouer du milieu de terrain toulousain. Mais oui, Rennes a les capacités de le faire. Tout dépend s'ils s'en donnent les moyens ou pas. Mais ça sera un match qui sera, je pense, assez serré quand même, parce que ce sont deux clubs qui Toulouse ne voudra pas perdre pour justement essayer de décrocher son maintien. Et Rennes essaiera de gagner. Mais voilà, ça va être assez serré, je le pense, dans l'ensemble.
Si Toulouse gagne, vous pensez qu'ils peuvent viser plus haut, genre parce que là actuellement Toulouse c'est ils ont 33 points si je me trompe pas.
La question, faut s'arrêter.
Non mais je pose la question. Si Toulouse gagne, ils sont à 36 points.
Non, 36 points, il reste 5 journées. Là actuellement le championnat il est cassé en deux. Il y a de la 4e place à la 10e place, ça se joue entre 44 points. Et 38 points. Il y a 6 points entre 6 équipes. Voilà, donc c'est là où ça va se jouer. Et après, il y a dès la 11e place jusqu'à la 16e place, où là, il y a 26 points, 33 points. Voilà, c'est les deux championnats qu'il y a à l'heure actuelle, pour moi.
Alexis, est-ce que je suis un doux rêveur?
Je pense que oui. Je pense surtout que ce serait l'erreur à faire. Ce serait la grosse erreur côté Toulouse de se dire « Oh, et si on gagne contre Rennes ? Et si, est-ce qu'on pourrait pas continuer en Europe l'année prochaine, accrocher la 7e place ? C'est possible, c'est pas si loin. » Sauf que justement, voilà, comme Maxime le disait si bien, ils sont beaucoup plus proches de la 16e place que de la 7e, en fait. Et tenter de risquer le tout pour le tout pour aller plus haut, bah en fait, c'est dangereux, parce que les clubs derrière, Strasbourg, Montpellier, Le Havre, Nantes et surtout Lorient, eux, ils seront surmotivés pour prendre tous les points qu'ils peuvent avoir et ça peut faire des fois à Toulouse. Ils se retrouveront 15e de match avant la fin de saison et ils vont pas savoir ce qui leur est arrivé.
Ok.
Donc, je pense que tu rêves un peu trop.
il leur reste Marseille à jouer, il leur reste le PSG, il leur reste Brest. Ça va pas être facile de prendre 9 points contre ces trois équipes-là déjà. Hein.
Ouais. Ah, c'est vrai. Bon, bah, je reste dans mon doux rêve ensuite, de voir Toulouse.
Et ensuite, ils ont leur. Et ensuite, ils ont leur finale pour le maintien contre Lorient et Montpellier aussi. Ça aussi, c'est des matchs pas faciles à gagner, je pense. Même s'ils peuvent, même s'ils se mettent dans l'état d'esprit de viser plus haut.
Ouais. Ok. Bon, bah, merci de casser mes rêves, hein. C'est gentil de votre part. du coup, on va passer au résultat.
On te laisse le rêve pour le PSG en Champions League. On te laisse rêver à propos de ça.
Merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce match, sur ces équipes-là? Puisqu'on voit, on aurait pu dire d'autres choses, hein, comme Rest qui fait des belles performances, hein, Toulouse qui a fait quand même 2 clean sheets au mois de mars. Mais est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces équipes, des trucs à dire avant qu'on passe au résultat?
Moi, j'ai envie de lancer un petit truc.
J'attends de voir le résultat. Mais vas-y, Alexis.
J'ai envie de lancer un petit truc, une petite idée. C'est pas vraiment sur le match, mais c'est sur ce que Maxime disait tout à l'heure sur l'arrivée potentielle ou espérée d'un défenseur central expérimenté. Je vois que Matip est libre à la fin de saison. Il joue peu depuis quelques temps parce qu'il est blessé. Aussi, ça a été compliqué aussi quelques années avec Liverpool. Donc, pourquoi pas? Voilà, Matip, ce serait, je pense, une bonne pioche pour Rennes s'il accepte de passer de Liverpool à Rennes. Bon, c'est pas le même.
Florian Maurice, si tu écoutes ce podcast, tu vas juste suivre ce podcast. Voilà, une idée soufflée par un supporter nantais. Je sais pas si c'est du poison qu'il veut nous vendre ou pas, mais
je ne dis rien.
Ah, c'est vrai que ma type, c'est pas bête. Ah, j'y ai pas pensé. C'est pas bête. Au moins, j'étais plus sur Abdelhamid.
Je pense pas que son salaire soit trop élevé. Mais ouais.
Même s'il est, il bénéficie de l'impatriation en venant en France. Matic est bienvenu de la S-ROM.
Ouais.
Je pense que
ouais.
Matip est à peu près dans les mêmes tranches de salaire, donc c'est peut-être faisable.
Ouais, j'imagine aussi, hein, doit y avoir ce type de disposition, et puis en s'arrangeant, en bidouillant un peu, tu peux. Et puis je pense pas qu'il y ait des très gros salaires non plus à Rennes, donc je pense que tu peux te permettre d'en avoir un ou deux max comme ça qui pète un peu le plafond. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas bête, Matip. On va passer au résultat, messieurs. On va commencer par toi, Maxime. Qu'est-ce que tu vois comme résultat pour ce match?
Je vois un match assez serré. Je dirais 2-1 pour Rennes. Je pense que Siro va manquer au milieu de terrain.
Je pense aussi. Mais... Alexis?
Ouais, je suis d'accord. Je vois pas de clean sheet non plus. Match serré. 2-1, ça me paraît bien. Pour ne pas dire la même chose, je vais dire 3-2, en espérant voir un très beau match. mais oui, en effet, Siro va manquer. Rennes, comme on l'a dit, a des difficultés en attaque. On verra. Mais ouais, un but d'une victoire, enfin pardon, une victoire d'un but pour Rennes en tout cas.
Ok. Très bien. Bah merci messieurs. On va passer à présent au match suivant. Donc Lyon face à Brest. Pareil, très beau match, match du prime time, dimanche soir. On devrait avoir deux belles équipes quand même qui s'affrontent, puisque on a aujourd'hui une équipe lyonnaise qui est passée du petit chaton, hein, du 14e, à aujourd'hui un prétendant en place européenne. Hein, donc Lyon, qui est actuellement 10e du championnat avec 38 points, qui a gagné son dernier match 3-1 face au FC Nantes. De l'autre côté, on a un Brest qui ne s'arrête plus, qui a elle aussi gagné son match face à Metz 4-3, alors qu'il s'est fait peur, alors qu'elle contrôlait, on va dire, ce match. Mais bon, au final, les 3 points sont là. Donc Brest est toujours deuxième avec 53 points, qui a toujours de l'avance. Un point d'avance sur Monaco, 52 points, et 4 points d'avance sur Lille avec 49 points. En termes de confrontation entre Brest et Lyon, donc Brest s'était imposé au match aller 1-0 à domicile. Voilà. Généralement, en tout cas sur ces dernières années, c'est vrai que Brest a quand même pris sur les deux dernières années l'avantage sur cette équipe lyonnaise. On va commencer par le match, l'équipe qui reçoit. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que ce match-là face à Brest, ça permettra à Lyon d'affirmer ses ambitions européennes? Parce que c'est vrai que la semaine dernière, on en parlait en plus, Alexis, où tu me disais, Lyon ne peut voir l'Europe que par la Coupe de France. Au final, on a quand même une équipe qui était 14e et qui est aujourd'hui co-meilleure équipe de 2024, qui est sur 8 victoires, 1 nul de défaite.
Oui, mais je savais pas qu'ils avaient acheté les arbitres encore à ce moment-là.
Et ouais, t'étais pas dans le secret des dieux, mais bon, que veux-tu. Est-ce que voilà, c'est le match, on va commencer par Maxime pour avoir son avis, est-ce que c'est le match vraiment pour que Lyon affirme ses ambitions en se disant, les gars, moi aussi je fais partie de la course pour l'Europe aujourd'hui?
Je trouve que de toute façon, je l'ai dit depuis le début de la saison, c'est que Lyon, c'était un peu une erreur de les voir, aussi bas. Donc je les ai toujours défendus, j'ai toujours dit que je les voyais remonter, que la situation, je vais pas dire, n'était pas dramatique parce qu'elle l'était quand même, mais c'est un peu le match qui va, le match avec la fin de saison bien sûr, qui va pouvoir les permettre de les relancer. Il y a encore cette coupe, donc pour eux ça va être hyper important d'aller en finale de Coupe de France, mais c'est vrai que ça va être, je vais dire, peut-être la saison de transition. Même s'ils vont pas en Europe cette année, ils finissent en fanfare pour dire, bon, attention, l'année prochaine, on revient. Oui, on a eu 6 mois très compliqués, mais l'année prochaine, comptez sur nous pour jouer minimum la Coupe, l'Europa League. Et pourquoi pas aller chercher une place en Ligue des Champions.
Ah ouais, carrément, toi, tu penses qu'ils peuvent même viser une troisième place?
Ah non, pas cette année. L'année prochaine.
Oui,
au fur en fanfare cette année, potentiellement ne pas aller en Coupe d'Europe, être vraiment aux portes de l'Europe, mais en se disant, voilà, on a vraiment fait un super une deuxième partie de saison vraiment exceptionnelle. Ils font un recrutement peut-être estival qui sera aussi bon que celui qui était cet hiver, et pourquoi pas viser l'année prochaine, une très belle année pour essayer d'être sur le podium.
Ouais, donc c'est vrai que dès le début de l'année, tu me disais que Lyon va remonter, même si moi je le voyais couler. Faut te rendre ça. Il y a un petit point par contre sur lesquels j'aimerais, voilà, Alexis, que tu me donnes ton avis. Aujourd'hui, on sait que Lyon a quand même une défense solide qui s'est bien mise en place avec Tagliafico, le surprenant O'Brien, Caleta Sarr. Et voilà, à droite, on a du Maitland-Niles ou du Mata. Caleta Sarr ne sera pas présent, pour ce match-là. Est-ce que on peut justement craindre, on le voit quand il manque un des éléments forts de cette équipe, on l'a vu avec Lacazette quand il a loupé récemment, il a loupé deux matchs, il me semble qu'ils font une défaite, une victoire. Est-ce que justement cette absence peut poser du tort à cette équipe lyonnaise face à Brest?
C'est vrai que c'est surprenant parce que au mercato d'hiver, on les voyait acheter plein de joueurs dans tous les sens. On disait mais ils font n'importe quoi, ils font comme Chelsea, ils vont avoir trop de joueurs à chaque poste et il y aura aucune stabilité dans l'équipe, aucune continuité. Mais au final, en fait, oui, c'est toujours, presque toujours le même 11 qui est aligné. Donc ils ont créé cette stabilité et je pense que le cas Lacazette c'était un peu différent, c'est vraiment parce que c'est lui qui marque les trois quarts des buts de l'équipe. Là c'est, on va dire, seulement défenseur central qui va manquer à l'appel. Contre Nantes la semaine dernière, justement, c'était la défense centrale ou la défense en général qui avait permis à l'équipe de rester
à flot.
De rester à flot, voilà. Merci. Et surtout gardien aussi, qui fait des arrêts. On lui tire dessus aussi, mais il fait des beaux arrêts. Après, justement, l'indisponibilité de Caleta Sarr, ce serait peut-être une bonne occasion de revoir Lovren, je sais pas. Lui qui n'a pas joué depuis la victoire contre Nantes en décembre. Lovren qui a de l'expérience, qui a des qualités, bon, qui voilà, qui n'a pas joué, qui manque peut-être de forme et qui a peut-être des problèmes contractuels avec la direction, eux qui potentiellement pourraient le libérer de son salaire énorme. Après, derrière, il y a aussi Koumbédi qui est pas mauvais, il est très jeune encore une fois comme à Rennes. Les défenseurs centraux jeunes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sérieux ni solide, mais il y a quand même de la qualité. Donc je suis pas vraiment très très inquiet pour Lyon face au départ, enfin pas au départ, mais l'indisponibilité de.
Ok. Du coup, moi je viens de te demander, Maxime, qu'est-ce que Sage a de plus que les autres coachs? Parce que voilà, c'est quand même le troisième coach lyonnais cette année. Certes, il y a des bons résultats, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Alors bien sûr, certains diront de l'argent. Ils ont fait un recrutement de dingue cet été, cet hiver. Est-ce que voilà, c'est le fait d'avoir un effectif plus étoffé? Est-ce que c'est aussi d'avoir une certaine sérénité dans le club qu'il n'y avait pas en début de saison? Est-ce que toi, c'est quoi le, quel a été l'élément qui permet aujourd'hui à Lyon de prétendre à ses places européennes?
Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense que voilà, c'est un peu un tout. C'est des joueurs qui se sentent peut-être bien, qui se révoltent un petit peu eux-mêmes, et peut-être un manager qui arrive à les faire aller dans le même but et viser toujours plus haut, et essayer de les faire relativiser peut-être sur la situation qui était assez critique, parce qu'après je suis pas dans les vestiaires lyonnais, donc je peux pas savoir exactement ce qu'ils...
Ah bon? Ah, je suis étonné.
Mais c'est vrai que en soi on le voit avec tous les coachs en Ligue 1 et ailleurs, hein, dans tous les cas c'est pendant une certaine période, oui, ça fait un effet, et ensuite au bout de 1, 2, 3 ans pour les plus grands coachs qui restent dans leur club, Voilà, c'est, on va dire, peut-être une nouvelle dynamique, un certain management positif, peut-être, qui arrive à les pousser et qui pousse tous ces joueurs vers le même but. Donc, moi, je vois ça. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on voit beaucoup moins jouer. On parlait de Sahel Koumbédi. Sahel Koumbédi joue vraiment beaucoup moins depuis l'arrivée de Persage. Donc, oui, certes, il a bénéficié d'un très bon recrutement cet hiver, mais il faut aussi réussir à tout s'embriquer, parce que on le voit dans les plus grands clubs du monde, c'est pas parce qu'on a 20 très très bons joueurs qu'on va gagner avec des champions, ça met du temps.
Ouais,
donc, à moindre mesure, c'est la même chose pour un club de Ligue 1 qui veut remonter. Faut arriver à mettre ces joueurs ensemble et les pousser pour que justement ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le club.
Ouais, parce qu'il y a vraiment des joueurs, on va dire, qui se sont réveillés et révélés. On en parle souvent, mais voilà, un joueur comme Maxence Cacré qui a joué tous les matchs de la saison, on a vu qu'au début c'était compliqué. L'arrivée de Matic lui a apporté quand même beaucoup de bien dans son jeu. Ça lui a permis, de se pacifier et d'être plus concentré aussi sur ce qu'il devait faire, d'être un peu plus offensif. Même un joueur comme Maitland-Niles, qui faisait un début de saison qui était pas très bon, là on le voit qu'il est pareil. Sur son côté droit, il est beaucoup plus offensif, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus intéressant et dangereux. Donc, mais c'est vrai que voilà, ce contraste est assez hallucinant quand même entre Lyon de début de saison et Lyon de maintenant, quoi. Ouais, vas-y, Alexis.
Après, c'est peut-être aussi la carte locale, parce que c'est vraiment un mec de la région. Il a joué à Chambéry, à Lyon-la-Duchère, entraîné à Chambéry, Lyon-la-Duchère. Il était coach des jeunes à Lyon. Donc, la plupart de ces jeunes aujourd'hui de l'équipe, c'est lui qui les a découverts aussi. Après, peut-être c'est pour ça aussi qu'il les fait pas jouer. Mais oui, il y a cette petite carte. C'est un jeune entraîneur. Il aime le club, alors que peut-être Laurent Blanc et Grosso n'aimaient pas forcément l'Olympique Lyonnais et voyaient ça juste comme un contrat de plus ou de moins.
Bah, Grosso, c'était quand même un ancien de la maison.
Oui, mais il n'est pas né à Lyon. Il n'est pas né de la région. Il a joué à Lyon, mais... Et aussi, peut-être pourquoi pas, la petite carte de l'analyse sportive footballistique de notre confrère Habib Bey, qui a eu Sage en tant qu'assistant au Red Star. Peut-être que, il a pu apprendre de bonnes choses, de belles choses dans l'analyse du foot et dans l'analyse des autres équipes adverses.
Ok. Mais bon. Après, voilà, faut quand même remettre dans le contexte et l'adversité, dans le sens où Lyon va quand même affronter la co-meilleure équipe de 2024, donc du coup avec Lyon, parce que mis à part son faux pas à Lens, Brest c'est quand même très solide, c'est 6 victoires, 4 nuls et une défaite en 2024. Sur l'année, c'est 7 victoires à l'extérieur, 3 nuls et 4 défaites. C'est la quatrième meilleure attaque de Ligue 1, deuxième meilleure défense de Ligue 1. J'étais même assez surpris puisque je pensais que c'était une équipe qui mettait que des petits 1-0. Alors c'est vrai qu'il y a un écart entre le PSG, Monaco et le reste, qui sont les deux meilleures équipes, mes deux meilleures attaques de Ligue 1. Mais ça reste, la deuxième meilleure défense de Ligue 1 derrière un Nice qui a très bien commencé, mais là, qui prend vraiment beaucoup de buts sur cette deuxième partie de saison. Toi, Maxime, je vais te poser la question. Est-ce que cette équipe de Brest est trop forte? Dans le sens où j'ai l'impression que cette équipe, elle a une sorte de grinta, elle vole, en fait. Tu as un peu ce sentiment, tu vois, du champion, tu vois, quand certaines équipes, peu importe ce qui leur arrive, ils vont quand même gagner, ils vont quand même avoir un match nul, le ballon va toujours tomber du bon côté, ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que aujourd'hui, ils ont cette grinta qui les rend intouchables?
Je pense que, Brest est sur une vague, même pas positive, elle est sur une vague hyper positive. Franchement, c'est impressionnant. Qui aurait cru au début de saison qu'au bout de 28 journées, on est Brest, dauphin du PSG. Franchement,
c'est fou. C'est
quasiment impensable. c'est pas l'un des effectifs qui fait le plus rêver. mais ils sont solides, ils jouent les uns pour les autres. On voit qu'il y a énormément de réussite, mais ils la provoquent, ça se provoque la réussite, donc c'est vrai que c'est beau à voir. Ils marquent pas forcément énormément de buts, mais ils en encaissent tellement peu qu'en fait, voilà, ils ont une équipe qui est cohérente et il suffit pas de gagner 5-0 une fois tous les trois matchs. C'est mieux de gagner 1-0 pendant 5 matchs. Ça permet d'avoir plus de points. Donc, ils sont sur une vague très positive. Espérons pour eux que ça dure le plus longtemps possible. Hein. Espérons, les autres espèrent justement que ça ne dure pas autant. Mais il est possible que, voilà, qu'on les voit très bien placés à la fin de saison.
Et pour moi, c'est une vraie différence par rapport à, par exemple, à une équipe rennaise dont on parlait tout à l'heure où il n'y avait pas de buteur qui se dégageait. Au final, Brest, c'est à peu près la même chose. Hein. On a un Doumbia qui a 6 buts, un Del Castillo qui a 6 buts, Camara 5 buts, Mounier 4 buts, Lesmilou 4 buts. Finalement, il n'y a pas de véritable buteur qui se dégage. Mais au final, c'est quand même la quatrième meilleure attaque de Ligue 1, deuxième meilleure équipe de Ligue 1. Est-ce que justement, c'est à la différence d'un Rennes, c'est pas la force brestoise d'avoir cette variété de buteurs et cette variété de dangers, puisqu'on voit très bien que de temps en temps, alors bon, le dernier match, il a aligné Satriano et Mounier en même temps, mais pendant très longtemps, il avait tendance à alterner entre les deux, Satriano, Mounier, avec toujours cette stabilité, Pereira Lage, Del Castillo derrière. Est-ce que justement, c'est pas ça leur force du côté brestois, que, par exemple, une équipe rennaise n'arrive pas à trouver Alexis?
Bah, je pense justement, oui, c'est ça la différence à Rennes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que chaque joueur avait un peu d'ego, avait la classe ou le style ou le talent ou un ego, en fait, qui fait qu'ils veulent tous être le joueur qui porte l'équipe, le joueur à 10, 15, 20 buts dans l'équipe. Et au final, bah, ils jouent pas ensemble ou ils n'arrivent seulement à marquer 6 buts ou 5 buts chacun, oui. Mais justement, oui, à Brest, c'est l'inverse, je pense. Ils ont aucun d'eux n'a vraiment ce futur à sceller ou cette promesse à garder ou à confirmer, pardon. Ils sont tous là. L'année dernière, ils sont sauvés en Ligue 1 en dernière minute. Et là, voilà, leur solution, leur tactique, leur recette marche, donc ils profitent, ils jouent tous ensemble, c'est une équipe soudée. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, c'était une des premières fois où, enfin non, c'est pas une des premières fois, mais c'est assez rare pour le noter quand même, où ils sont menés au score dès le début du match, à la 6e minute par Metz, et là, bim, ils enclenchent leur recette magique. Et ils enchaînent 4-1 en 30 minutes. Bon, après, en fin de match, c'était un peu plus compliqué. Ils sont laissés reprendre. Mais oui, et comme tu vois, justement, les 4 buts contre Metz, il n'y en a aucun qui est marqué par un même joueur. Ils enchaînent entre passe D, but, passe de créatrice d'action. Et voilà, ça roule. Et c'est ça qui est beau aussi dans le foot. C'est pas un joueur super fort en pointe qui marque tous les buts et l'équipe derrière qui fait le maximum pour pas prendre de buts. C'est du foot d'une équipe entière à 11. Et voilà. Je trouve ça bien.
Collectif, ouais.
Ouais, c'est assez d'accord, derrière... mais je mettrais un petit point quand même en contradiction. C'est que là, on est en train de comparer Rennes et Brest. Il y a qu'un but d'écart offensivement hein, entre Rennes et Brest. Donc en soi, c'est quasiment la même chose en termes de buts marqués. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la défense.
Ouais.
La défense, c'est qu'il y a il y a 11 buts encaissés à Rennes en plus que Brest. Et quand on prend les résultats de Brest comparés aux résultats de Rennes, alors oui, certes, il y a eu un gros résultat de Brest qui a mis 4 buts contre Metz, mais sinon c'est une victoire 1-0 contre Lorient, c'est 1-1 contre Lille, c'est une victoire 1-0 contre Le Havre, c'est une victoire 1-0 contre Marseille, c'est une victoire 1-0 contre Angers, 2-0 contre Montpellier. Il y a peu de gros scores en fait, ils vont à chaque fois marquer à peu près un but de plus que l'adversaire. Et pour moi, c'est un peu ça qui fait cette différence, c'est qu'ils vont réussir à bien marquer. Oui, ils marquent quand même pas mal. Je pensais pas qu'ils marquaient autant. Ils font quelques gros scores. Au Strasbourg, ils en mettent 3. Mais autrement, ils arrivent à faire des petits résultats et marquer un but de plus que l'adversaire, ce qui fait que ils vont empocher ces 3 points. Et grâce à leur bonne défense, en fait, ça leur permet d'être à la place là où ils sont. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que en fait, c'est huilé. C'est voilà, il y en a qui vont faire des passes, d'autres qui vont faire des passes décisives. Un qui va marquer, puis après il va faire une passe. C'est un vrai collectif. Et ça, avec une bonne défense, c'est la recette. Voilà, d'Elche Best qui est bon cuisinier, la recette d'un bon coach de Brest.
Et pour rajouter et continuer sur ce que tu dis, ça me fait penser un peu à Nice, la première partie de saison où ils marquaient pas forcément énormément, ils mettaient un but de plus que l'adversaire, mais ils avaient ce côté défensif qui leur permettait de gagner. Brest a réussi à le faire plus longtemps sur la saison. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence aussi entre ces deux équipes-là. Mais oui, au final, il y a quand même cette surprise de voir Brest mettre autant de buts. Mais le point fort de cette stratégie, c'est la défense. Et là, à ce niveau-là, ça ment pas. Après, petite tâche au tableau. Kenny Lala sera absent. Kenny Lala sera absent face à ce match-là. Est-ce que on peut craindre que la machine, ce petit grain de sable qui vient un peu, bloquer la machine, Maxime, ou en soi il y a quelqu'un qui pourrait remplacer, qui pourrait prendre la place de Lala ce week-end?
Ça fait toujours du mal d'avoir un titulaire indiscutable. Il sera pas là pour ce match. Après, je pense que il y a la possibilité pour Brest. C'est pas le joueur phare de Brest, même si c'est un titulaire indiscutable depuis le début de saison. Mais je pense qu'ils vont peut-être avoir la possibilité de le remplacer. Ils sont quand même souvent sur les mêmes joueurs depuis le début de la saison. Mais à mon avis, il y a peut-être la possibilité. Je sais pas si le cardinal peut jouer ce poste-là ou pas. Ils vont pas avoir le choix. Je les vois pas changer de dispositif pour ce match. Donc, pourquoi pas faire redescendre sinon un autre joueur, histoire de combler cette absence. Il va être un peu préjudiciable quand même, parce qu'on voit que Brest fait quand même jouer les mêmes joueurs, surtout en défense, depuis le début de saison.
Ouais, Brassier a loupé 3 matchs, Chardonnay a loupé 1 match, Loco et Lala, ils ont loupé pour l'instant aucun match de Ligue 1. Pour dire à quel point, et puis c'est peut-être ça aussi, la force, c'est que c'est toujours la même équipe qui est alignée, quoi. Ça, c'est assez hallucinant, quoi.
Peut-être, si je peux.
Vas-y, je te laisse conclure avant de passer au résultat.
Ce serait peut-être l'occasion de voir à ma vie revenir, parce que lui qui était blessé, il a fait son retour il y a une semaine.
Normalement, ouais, il était sur le banc la semaine dernière.
Oui, il était sur le banc, voilà, exactement. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de revoir un ancien de la Ligue 1 comme Lala, reprendre quelques minutes, jouer un peu en défense et faire du bien à cette défense justement qui ne tourne pas beaucoup à cause de cette blessure beaucoup aussi, je pense.
Je sais pas s'ils vont prendre le risque. Personnellement, je suis coach, le joueur a joué aucun match cette saison. Je préfère.
C'est pas en titulaire, oui.
Ouais, justement, en titulaire, je préfère mettre un joueur où c'est pas forcément son poste, mais il a plus de rythme.
De présence, ouais.
Dans le plus de rythme aussi, donc, et si ça se passe mal, à la limite, le faire rentrer, mais, je sais pas s'il prendra ça ce coup-là. Peut-être, c'est possible.
Après, le problème justement, c'est quoi? Ils n'ont pas beaucoup d'autres remplaçants en défense centrale ou en défense en général, pardon.
Ouais, à droite, sinon c'est Zogbé, mais Zogbé, il a joué aucun match aussi, et Jonas Martin est absent aussi pour ce match, donc.
Zogbé, il a fait un match en coupe, je crois, il me semble. Mais
ouais. Bref. Mais ouais, c'est ça, donc c'est.
Il y a peut-être certains centraux qui peuvent aller sur le côté droit. Je ne sais pas si c'est jouable pour eux, mais. Moi, je parierais sur un petit le cardinal. Je sais pas pourquoi, mais je le verrai lui à droite.
Ok. Ok, ok. Alors, du coup, vos scores, vous pensez, vous vous attendez à quoi?
Qui commence?
Allez, vas-y. Ouais. Vas-y.
J'ai envie de dire un but partout, parce qu'il y a une stat quand même, c'est que le Stade Brestois n'a jamais gagné à Lyon. Dans toute l'histoire,
il n'a
jamais gagné à Lyon. Donc, petite stat intéressante.
Ok.
Ou pas. Donc je vois un but partout parce que Brest prend peu de buts et sur une phase vraiment très positive, je me dis Brest ne va pas perdre contre Lyon.
Ok. Ok, ok, d'accord, très bien. Toi Alexis?
Moi je suis pas d'accord, je vois Lyon gagner. oui, bah, on se demande pourquoi. Hein. Non mais je vois beaucoup de buts par contre. Donc ouais, peut-être un 3-1 de Lyon, enfin un vrai match où ils imposent, où ils imposent leur rythme, où ils imposent leur présence en Ligue 1 et leur volonté d'être traité comme une équipe futurement qualifiable en Ligue des Champions.
Ok. J'avoue, ce match, il est pas facile. Hein. Là, vous êtes lancé dans des trucs parce que c'est vrai que d'un côté, t'as Brest, comme on l'a dit, hein, la pièce tombe toujours du bon côté, en tout cas quasiment tout le temps, et en même temps Lyon qui est en pleine bourre aussi. On verra ce week-end, mais en tout cas, j'espère que ça sera un très très beau match. Très bien. Pardon.
Ton pronostic quand même, Dusty.
Prono pour ce match. Moi, j'ai quand même envie de partir avec... Moi, je pense que je vais partir sur un match nul aussi. Ouais.
Tu peux plus donner un vainqueur parce que comme ça, on sait qu'il faut jouer, l'inverse à chaque fois. Ça.
Ouais, c'est vrai en plus. Mais en soi, quelque part, au fond de moi, j'avais envie de dire Brest. Mais en vrai,
mettez tout sur Lyon, ça va gagner.
Je te jure, mets le PEL, tout, hypothèque la maison, c'est bon. Mais ouais, au fond, j'ai envie de dire Brest, mais ouais, Brest tout nul. Je vois pas Lyon gagner. Moi, j'irai Brest tout nul. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces différents matchs? Non, on peut passer au
tour. Hâte de les voir, simplement, hâte de les voir.
Nickel. Bon, on va passer à un petit tour des stades aujourd'hui, puisqu'il n'y aura que 4 autres matchs de Ligue 1, étant donné que 3 matchs ont été reprogrammés pour le 24 avril, dû aux compétitions européennes, comme on l'a mentionné en début de podcast. Et on va commencer avec Metz contre Lens. Alors, Metz contre Lens, pareil, on se remet dans le contexte. Metz avait gagné en début d'année, hein, donc quand Lens n'était pas forcément en forme, c'était en septembre, Metz l'avait emporté 1-0. Alors, c'est vrai que depuis, les destinées ont complètement changé entre temps, hein. On n'est plus sur le même délire parce que Metz a enchaîné une 3e défaite de suite, donc comme on l'a dit, face à Brest 4-3, est actuellement 17e du championnat avec 23 points, donc 5 points du premier non relégable Nantes qui a 28 points et 3 points du barragiste Lorient qui a 26 points. De l'autre côté, Lens a fait match nul lors de la dernière journée face à Le Havre, donc 1-1, et Lens voilà qui est sur quand même 2 défaites et un match nul sur les 3 dernières journées. Lens qui a 43 points, qui est actuellement 6e, donc 1 point de retard sur Nice qui est 5e avec 44 points et 3 points d'avance sur Reims qui est 7e. On va commencer par toi Alexis, pronostic pour ce match?
J'ai juste envie de d'abord revenir sur un petit détail dont tu parlais, où le match aller, du coup, Metz avait gagné, et c'était la seule victoire de Metz contre une autre équipe qu'un relégable. Parce que sinon, leur autre victoire, c'est 2 fois contre Nantes, relégable, contre Lorient, relégable, et il me semble contre Strasbourg. Mais voilà, ils ont gagné contre les plus petits et contre Lens. Ouais. Ils ont fait que perdre, presque.
Qui sait, peut-être vice-répétition du coup, sait. Alors.
Voilà, pourquoi pas. Mais malheureusement, je ne vois pas ça.
Tout ça
Non,
pour me
mais
dire
je...
ça, quoi.
Non, mais c'était une petite stat, je pense. Moi, je sais que tu aimes bien les stats, donc je me
C'est
disais,
vrai,
pourquoi pas,
j'adore
je
ça.
vais t'en donner une. Mais je vois quand même Metz partir sur le même état d'esprit que la semaine dernière contre Brest, où ils vont vouloir se sauver. Ils vont vouloir mettre toutes leurs armes et marquer peut-être en début de match, ou alors au moins oui, marquer en premier. Mais Lens, ça reste quand même plus lourd. Et ouais, de la même manière que contre Brest, je pense qu'ils vont prendre la sauce derrière en fin de match ou en deuxième mi-temps, et Lens va remonter et gagner ce match. Et donc un 2-1, simple, clair et net.
Ok. Toi, Maxime?
J'hésite, je me dis que Metz, voilà, c'est un peu la chance, ouais, un peu le match de la dernière chance. Lens vise la place européenne, ça va pas être simple d'aller jouer à Saint-Symphorien, mais ouais, je dirais quand même allez, 2-0 pour Lens.
Ok.
Mais dans un
2-0
match
pour l'instant.
compliqué, dans un match compliqué.
Ouais, parce que j'ai senti quand même Metz était assez mobilisé lors de son dernier match face à Brest, où bon, certes, ils perdent 4-3, mais tu sens que la défaite face à Monaco, là, le 5-2, ça, je sais pas, ça leur a fait quelque chose un peu au cerveau, en mode, attends, on va peut-être quand même se battre jusqu'au bout. Et pas abandonné, parce que je trouve que le match contre Monaco, ils avaient un peu abandonné en se disant on est déjà en Ligue 2. Et contre Brest, je les ai sentis plutôt combatifs. Donc ouais, ça va être un bon match de chiffonnier, hein, mais ouais, vraisemblablement Lens devrait l'emporter, quoi.
Je pense que
C'est vrai
Lens
que
va
ce match avait
galérer tout
fait
le
du mal,
match
ouais.
et que Metz va avoir énormément d'occasions, c'est comme ça que je le vois, mais qu'ils vont pas réussir à conclure, et que au contraire Lens va avoir peu d'occasions, mais va concrétiser ses occasions.
Tu voulais dire, Alexis?
Non, je réagissais juste par rapport au match de Monaco, où oui, ça avait fait vraiment mal, surtout que Monaco jouait comme dans la récré au collège, quoi.
Non, mais
Ils jouaient tellement facilement, sans pression, et ça marquait, ça plantait, ça plantait. Donc oui, je pense que ça a fait du mal. Ouais. C'était juste pour réagir là-dessus.
Match suivant, Strasbourg face à Reims. Strasbourg face à Reims, pareil, on se remet en perspective. Donc Reims qui avait gagné 2-1 à domicile face à Strasbourg au match aller. Donc Reims qui est actuellement 7e du championnat. Reims qui a fait un match nul lors de la dernière journée face à Nice 0-0, hein, qui se sont quittés voilà, sur un beau match nul. Reims qui est 7e avec 40 points, donc 3 points de Lens qui est 6e, donc ouais, 3 points de Lens qui est 6e, et un petit point d'avance sur Marseille et Rennes, et 2 points d'avance sur Lyon. De l'autre côté, Strasbourg est 13e avec 33 points. Strasbourg qui, comme on l'avait mentionné, a fait un match nul face à Toulouse. Donc 33 points, c'est le même nombre de points que de Montpellier, et qui a actuellement 5 points d'avance sur Le Havre. Monsieur Alexis, vos pronostics, s'il vous plaît.
Alors déjà, est-ce qu'on peut dire si Strasbourg gagne, vu qu'ils ont 33 points comme Toulouse, s'ils gagnent, ils peuvent prétendre à l'Europe? Non, tu ne me suis pas là-dessus.
C'est pas, non, c'est pas la même dynamique.
Ah, c'est pareil. Ah, c'est pas
pas
la
la
même
même
dynamique.
j'adore.
Mais ouais, non, moi je vois un match nul. Je vois un match nul, ouais, 0-0 encore. Strasbourg, ils trouvent leur bonheur à faire des 0-0 contre Toulouse, contre d'autres équipes un peu mieux classées. Et ils ont moins de stress derrière qu'il y a quelques semaines. Donc ouais, je pense 0-0. Ils engrangent des petits points comme ça dans la lutte pour le maintien, et sans éclat de beauté, sans rien d'extraordinaire.
Ok. Et toi, Maxime?
C'est peut-être l'une des rares fois où je vais être d'accord avec un supporter nantais, mais voilà,
Oh là 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 là.
je suis Strasbourg. Strasbourg a besoin de petits points par-ci par-là, une victoire pas forcément nécessaire. Reims en aurait besoin pour chercher l'Europe, mais je pense que Strasbourg va poser des problèmes à Reims. Et moi, je dirais match nul avec but, un but partout.
Ok, 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 très bien. Le Havre face à Nantes.
Je le gardais pour plus tard, mon je le garde pour plus tard.
Tu le gardes pour plus tard, bah attends, il y a des gros matchs qui arrivent. Mine de rien, non, c'est un gros match. Le Havre face à Nantes, puisqu'on est quand même sur deux équipes qui visent le maintien, deux rivaux directs. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 0-0. Sans éclat, hein, 0-0, quoi, des familles. Mais comme je vous l'ai dit, c'est deux équipes qui sont en concurrence directe. Donc, on a Le Havre qui a fait un match nul la semaine dernière face à Lens, donc un partout. Le Havre qui est actuellement 14e du championnat avec 28 points. Et Nantes qui est 15e du championnat avec 28 points également, qui a perdu à domicile face à Lyon 1-3. C'est très très chaud parce que bon, on peut quand même dire que Strasbourg est quasiment sauvé, 5 points d'avance sur ces deux équipes, mais derrière on a Lorient avec 26 points et Metz avec 23 points, Clermont plus difficile qui a 21 points. Ce match Le Havre-Nantes, ça va être très très serré. Qu'est-ce que vous voyez comme prono? On va commencer par toi, Alexis.
C'est pour ce match que je gardais moi 1-1.
Okay.
Parce que Nantes adore se tirer des balles dans le pied. Donc là, encore un match contre un concurrent direct comme contre Lorient ou Metz il n'y a pas longtemps. Donc je les vois arriver avec la nécessité de gagner pour prendre de l'avance. Parce que là, s'ils gagnent, ils auraient 3 points d'avance sur... potentiellement 5 points d'avance sur Lorient, le premier potentiellement relégable. Et ça, c'est trop d'avance, ça. À Nantes, on n'aime pas trop. On préfère garder du stress et
de la douleur. Vous préférez vous maintenir lors de la dernière journée, quoi, c'est ça.
Voilà. Voilà. Même si on peut jouer le barrage contre le Red Star, n'importe qui, contre Pau, c'est même mieux.
Alors, le Red Star, c'est un peu possible, hein, parce que le Red
ouais,
Star,
c'est compliqué, le Red Star. Paris FC, plutôt.
Tu te vois déjà en Ligue 2 avec le Red Star, c'est ça?
Oh là là. Sans commentaire. Non, ouais, du coup, je vois un match nul. Comme souvent contre les équipes moins bien classées, donc c'était la même chose contre Clermont et contre Metz, ou alors deux fois contre Clermont, ça c'est sûr. Où Nantes commence à instaurer leur jeu, marquer un petit but, se disent que c'est bon. Et après, ils s'en prennent deux ou un. Là, on va dire que c'est que un. Donc, ouais, match nul.
Ok. Ok, ok. Maxime?
Alors, match nul, je suis d'accord. Dans le... Match nul, c'est que pour moi, ce match ne va pas être bien. Après, je vois des buts parce que les deux équipes ont besoin de se sauver. Donc, malheureusement pour toi, Alexis, je vois une défaite de Nantes. Avec une
j'ai hésité longuement, hein, t'inquiète pas.
victoire du Havre 2-1, avec deux équipes qui vont essayer d'aller vers l'avant, avec très peu de qualité technique de part et d'autre, je pense. Ça va être assez haché et ça va aller un peu dans tous les sens. Et je pense que le Havre va finir vainqueur 2-1.
Parce que ouais, après, en plus c'est Simon, il est plus là, quoi, donc c'est compliqué.
Ouais, on vas-y, Abim, c'est maintenant.
Yes.
Il y a Abim. Ouais.
Mais
c'est vrai qu'à part Clermont, c'est les deux pires attaques de Ligue 1. Faut pas l'oublier aussi. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y aurait pas trop de buts, parce que voilà, ouais, ils sont pas très réalistes.
Ils sont pas très bons devant, mais ils sont pas très bons derrière, en fait.
Voilà.
C'est ça qui va aussi jouer.
C'est ça. Ça peut aller dans tous les sens, en fait. Ça peut être soit un 0-0, soit n'importe quoi. Ça te finit en 4-4, le match. Tu comprends pas, quoi.
Et c'est peut-être un
Rennais. Comme il y a vu, un 5-3, encore rien. Et peut-être encore.
Qui ça?
T'es d'accord, Alexis? Tu veux voir un Rennais sauver le FC Nantes?
Ablin.
Ah, c'est un formé à Rennes?
Sans quoi qu'on est sauvé?
Un Rennais qui sauve le FC Nantes? Ça serait du jamais vu.
On l'achèterait direct, il serait monté. Parce que je crois qu'il a une option d'achat. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a une option d'achat. Dans
Il y
son
a une
prêt.
option d'achat, mais
Qui devait
Nantes
être
est assez radin et
à 6 millions.
ne veut pas lever l'option d'achat. En tout cas, ils veulent essayer de la négocier.
Non.
Ok.
Quitta est radin, oui. Non, pardon. Une certaine personne du club du FC Nantes peut être vue comme radine, peut-être.
Nous
Mais
la nommerons
ouais,
pas.
je crois que l'option d'achat, je crois qu'il y a 6 millions. 6 millions l'option d'achat, et
Elle est
je crois
à...
que Nantes voudrait la passer à 3.
Ah, quand même, 6
Voilà la
millions.
logique.
Ouais. À voir, à voir, à voir. Ok, messieurs. Et puis, bah, dernier match. Pareil, dernier gros match de ce week-end. Montpellier-Clermont. Donc, Montpellier-Clermont, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, un partout au match aller. Pardon, oui, c'était Montpellier-Clermont, mais là, on va voir Clermont-Montpellier, pardon. Clermont qui a fait un match nul le match dernier face au PSG, 1-1, donc comme au match aller, hein, ils avaient réussi à gratter le match nul, donc à la différence ils avaient fait 0-0, là ils ont fait 1-1, donc ça leur fait toujours un petit point en plus, et ça leur permet d'espérer dans cette course au maintien, puisque actuellement Clermont est 18e du championnat avec 21 points, ils ont 2 points de retard sur Metz qui en a 23, et 5 points sur Lorient, le Barragis qui a 26 points. De son côté, Montpellier s'est imposé 2-0 face à Lorient. Montpellier qui a enchaîné quand même sa deuxième victoire de suite. Montpellier qui, pareil, s'est créé son petit matelas qui a 33 points actuellement. Autant de points que Toulouse et Strasbourg qui sont 11e et 13e et qui a 5 points d'avance sur Le Havre. Messieurs, votre dernier pronostic pour ce match. Bon, allez, on va commencer par Maxime cette fois. Je t'écoute.
Pour moi, on enterre Clermont et victoire de Montpellier 2-0. Et Clermont, bon courage et bonne chance pour la Ligue 2.
Ah, t'es dur. Enfin, t'es dur. C'est la vie,
Ils
hein.
ont fait un exploit, ils ont pris un point face au PSG, bravo à eux. C'est compliqué, une Ligue 1 à 18. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'ils vont en faire les frais. Et peut-être dès ce week-end.
Ok. Ça, c'est quand même 4 petites victoires, clairement, cette année, quoi. Bref. Alexis.
Moi, je vois une cinquième victoire de Clermont.
Allez.
Pas après le match contre le PSG, ça n'a rien à voir pour la dynamique. Enfin, quoique ça doit leur faire plaisir aussi de se dire que ils ont réussi à accrocher le PSG, mais je vois quand même Clermont gagner en me basant sur la victoire contre Le Havre, leur nul contre Strasbourg. Donc, des équipes qui sont plus ou moins dans les mêmes dynamiques que Montpellier en cette fin de saison. Et Clermont, justement, qui a besoin de points, qui ne veut pas baisser les mains ou les bras trop rapidement, parce qu'ils ont aussi de la qualité offensive. Donc, voilà, ils savent, ils ont des joueurs, ils ont Nicholson qui est pas mauvais. Donc, voilà, je les vois quand même gagner. Peut-être qu'ils se feront rattraper en fin de match aussi, mais je vois quand même, ouais, clairement mené, et puis peut-être, j'espère, voilà, jusqu'à la fin.
Ça ferait quand même un beau petit scénario de fin si
Voilà.
Clermont gagnait, remontait. Enfin, ce serait une fin de saison de fou. Après, c'est vrai que je pense que c'est quand même très compliqué pour Clermont aujourd'hui. Même Metz, on parle un peu plus tôt, comme quoi ils avaient eu un petit sursaut, mais qualitativement, en termes de joueurs, c'est
Après, en soi, il n'y a
compliqué.
rien à faire, hein. C'est sûr qu'il suffit que Nantes ou Le Havre perdent un des deux, que Lorient perde, que Metz perde et que Clermont gagne. Tout de suite, ils arrivent à 4 points de la place de barragiste. Ils arrivent à 4 points en étant de la 15e place. Donc,
Ouais.
et en gagnant là, ils arriveraient à 2 points de la place de barragiste si Lorient perd. Donc, en soi, c'est pas terminé. Mais ça sera serré jusqu'au bout. Et malheureusement, oui, dans tous les cas, il y en a deux qui feront les frais d'une descente. Ça va être serré jusqu'au bout et c'est ça qui va être intéressant. Espérons pour le spectacle que Clermont gagne et que Metz gagne, hein, pour le spectacle, ça serait magnifique.
Ouais, ce serait assez fou. Enfin, bref. Messieurs, Merci de m'avoir accompagné pour parler de cette journée raccourcie. Alors c'est sympa parce qu'on a pu voilà s'étendre et parler un peu plus des autres matchs. Donc nickel. Merci à vous de nous écouter nos épisodes. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, comme vous le faites d'habitude, de réagir, de venir nous voir, de discuter avec nous sur l'ensemble des réseaux sociaux parce qu'on est partout sur Twitter, enfin X pardon, sur Instagram, sur Fred. N'hésitez pas à nous écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute, que ce soit Apple Music, Deezer ou encore Spotify. Dans tous les cas, on vous souhaite une très bonne demi-journée de foot, parce que certains matchs vont manquer, quasi un tiers des matchs manquent. Donc nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour cette 30e journée de Ligue 1. En tout cas, on vous souhaite un très bon week-end de football et un très bon week-end dans le meilleur championnat, bien sûr, du monde, enfin d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.